autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour parler d'amour aujourd'hui, de chimie et d'alchimie amoureuse. Pourquoi et comment s'attache-t-on et à qui dès la naissance et tout au long de nos vies? Comment éclairer les feux de l'amour et les mystères de l'attraction sexuelle, mais aussi amicale et affective? Et si c'était du côté de notre chimie interne qu'il fallait chercher des réponses à cette impossible question? Qu'est-ce que l'amour? À laquelle notre invité, le professeur de chimie, oui, de chimie, Marcel Hibert, consacre désormais ses recherches avec des succès inattendus et même inespérés. Ocytocine, mon amour, c'est le titre de son ouvrage à nul autre pareil, qui vient de paraître aux éditions Humaines Sciences et dont nous avons quelques exemplaires à vous offrir. Chers amis auditeurs qui êtes loin d'ici, laissez-vous toucher par les flèches moléculaires de Cupidon. Autour de la question, pourquoi et comment la chimie peut aussi parler d'amour? Bienvenue.
T'as pas faim?
Non, j'ai envie de rien. Je suis bien.
C'est vrai? T'es bien avec moi?
Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux.
Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Ellie.
Embrasse-moi mon cœur.
Michel Morgan et Jean Gabin échangeant un baiser sur le quai des Brumes. C'est presque une bande-annonce pour votre ouvrage, cher professeur Marcel Hibert. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour parler d'amour, de baiser. Ocytocine, mon amour, c'est le titre de votre essai, publié chez Humaines Sciences. Alors, un chimiste qui vient nous parler d'amour, est-ce bien raisonnable? C'est vous-même qui vous le demandez, Marcel Hibert. En préambule de votre ouvrage, donc vous êtes professeur de chimie organique et médicinale à la faculté de pharmacie de l'université de Strasbourg et renommé pour la découverte et le développement dans une autre vie de médicaments contre le cancer. Désormais, vous consacrez vos recherches, vos travaux à cette impossible question: qu'est-ce que l'amour? Est-ce bien raisonnable, Marcel Hibert? Comment un chimiste comme vous peut nous parler d'amour, et aussi bien et aussi largement que cela?
Déjà, le chimiste est aussi un homme, donc j'ai été amoureux, j'ai eu des chagrins d'amour, et je me suis posé des questions sur ce qu'est l'amour. Et en fait, dans le cas particulier de ce travail, c'est dans une vie antérieure, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, donc sur des projets plus ou moins fascinants d'un point de vue application, le vomissement, des choses comme ça. Et j'ai décidé
d'empêcher les vomissements, notamment empêcher les vomissements, création de médicaments en cas de
migraines, etc. Et puis un jour, j'ai décidé de reprendre ma liberté, de revenir à l'université. Et là, que faire de cette liberté? Donc je me suis posé la question: qu'est-ce qu'il y a d'important dans la vie, la mort, la maladie? C'est les sujets qu'on étudie d'habitude en faculté de pharmacie. On essaie de comprendre l'origine de ces maladies. On essaie de trouver des médicaments pour ces problèmes-là. Et puis finalement, pour des raisons peut-être personnelles à l'époque, où je doutais peut-être de l'amour, de son existence ou autre, donc je me suis posé cette question, mais finalement, l'amour, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et puisque on peut aborder le vivant au niveau moléculaire, je me suis dit, mais qu'y a-t-il de connu au niveau moléculaire sur les mécanismes de l'amour? Est-ce qu'on connaît quelques mécanismes biologiques, biochimiques, moléculaires? Et à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait strictement rien dans la littérature scientifique, hein, les sciences dures. Alors bien sûr, toutes les sciences humaines et sociales s'y étaient intéressées. Mais en sciences dures, chimie, biologie, biochimie, etc., il n'y avait strictement rien. Donc, je suis resté pendant 2-3 ans avec cette question, jusqu'à ce qu'un petit événement déclencheur me permette de démarrer ce projet.
Alors, ce petit événement déclencheur va nous expliquer pourquoi ce titre, hein, « Ocytocine, mon amour ». Un des événements déclencheurs, c'est un de vos collègues chercheurs qui a étudié des petits rats, des petits rongeurs, des petits campagnols, dont certains étaient polygames, d'autres monogames. Racontez-nous cet événement fondateur d'Ocytocine, mon amour.
Oui, le hasard fait bien les choses. En fait, je travaillais sur cette hormone depuis quelques années, mais purement au niveau fondamental.
L'ocytocine.
L'ocytocine, hein. C'est le nom. C'est une petite molécule qui est fabriquée dans le cerveau, qui est relarguée après dans l'organisme. Et voilà, dont les fonctions classiques étaient provoquer l'accouchement et puis faciliter l'éjection du lait. Donc ça, c'est déjà très, très connu. mais pratiquement rien d'autre. Et je travaillais dessus parce que c'était un bon modèle d'étude pour nous, pour comprendre un certain nombre de mécanismes, vraiment au niveau moléculaire. Et tout à fait par hasard, donc j'étais à un congrès à Montréal sur cette hormone. Et au lieu de venir parler d'accouchement et de choses comme ça, eh bien, un des conférenciers est venu nous raconter ses découvertes. Il travaillait effectivement sur des petits campagnols, des petites souris des champs. Ça s'appelle des voles en anglais. Donc, comme par hasard, c'est l'anagramme de love. Hein, c'est tout à fait marrant, quoi, les petits voles. Et il travaillait là-dessus. Et en fait, c'est un autre naturaliste qui s'appelle Gates, qui toute sa vie a étudié ces animaux. Et un jour, il s'est rendu compte que dans les prairies, ces petits animaux restaient toujours en couple. Ils étaient absolument monogames, toute leur vie, ils restaient ensemble, ils vivaient ensemble dans les terriers partout. Alors qu'il avait connaissance que la même espèce animale qui vivait dans des conditions plus hostiles, plus dures, dans la montagne, ben c'était l'inverse, c'était notoirement polygame. Donc là, on avait dans la même espèce des monogames et des polygames. Et donc, ce qu'a fait Tom Hainzel, qui était ce conférencier à Montréal, c'est qu'il a travaillé sur ces animaux et il a mesuré tout ce que l'on peut mesurer biochimiquement et chimiquement. Et il s'est rendu compte, en fait, la seule différence entre les deux populations, c'était une hormone, c'était l'ocytocine.
Plus il y avait d'ocytocine, plus les campanoles s'attachaient à leurs campanoles du sexe opposé, et plus ils restaient ensemble.
Exactement. Donc, ceux de la prairies. Donc, ceux-là avaient des très forts taux d'ocytocine. Ils étaient monogames et parents très, très attentifs. Alors, ceux de la montagne étaient polygames et étaient des parents vraiment le minimum nécessaire. Et ceux-là avaient des taux très, très bas d'ocytocine.
Donc l'ocytocine, la molécule de l'attachement. C'est ça. On peut dire donc, ça comme ça. On a parlé de l'hormone de l'amour, molécule de l'attachement. Comment vous diriez ça?
Moi, je dirais rien parce que c'est de toute façon, c'est de toute façon un raccourci. Donc, il ne faut surtout pas réduire, parce qu'après, ça lance sur des pistes qui sont ridiculement trop simples. Donc, mais effectivement, si on doit quand même... On pourra définir après ce qu'est l'amour, mais clairement, c'est plutôt du côté de l'attachement qu'il faut regarder. L'attachement mère-enfant, père-enfant, de l'attachement entre adultes, mais plus loin aussi de l'attachement, comme on le verra, de l'attachement à son groupe social, de l'attachement au-delà de ça.
Vous dites, je vous cite parce que vous avez aussi une jolie plume de chimiste, je ne sais pas. L'ocytocine, c'est l'actrice qui est toujours dans l'ombre du théâtre amoureux. C'est ça, en fait, l'ocytocine. Pour, justement, là, ça ne simplifie pas. Ça ouvre, ça fait appel au poète.
Bien sûr. Alors, si on doit résumer l'action, c'est quelque chose qui fait le lien entre toute une série de fonctions qui sont indispensables à l'espèce et le plaisir. Donc, ça associe du plaisir à tout ce qui est indispensable à l'espèce. Et, bien, en fait, l'attachement à ses parents ou s'occuper de son enfant, l'amour aussi entre adultes, la reproduction... Tout ça sont des fonctions qui sont absolument indispensables à l'espèce. Et on a l'impression que la nature a utilisé cette hormone, finalement, pour faire le lien entre plaisir, une certaine forme de dépendance même, et d'un autre côté, tout ce qui est utile à la survie de l'espèce. C'est comme ça, je pense, qu'on peut le mieux la définir sans entrer dans le détail.
Alors, je propose de revenir, Marcel Hibert, autour de l'ocytocine, à notre premier baiser, celui de Michel Morgan et Jean Gabin, parce que vous dites que le baiser est l'un des plus forts stimulus d'attachement. On écoute Alain Souchon avec son baiser, et puis on réfléchit ensuite à ce que ça nous fait.
Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malauvray d'une. La mer du Nord en hiver sortait ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés. J'ai ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes, en blonde j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tourner le vent, la dune à l'envers, tourner le ciel et tourner la terre, tourner, tourner le grand air.
Tournée de baisers posée par Alain Souchon sur nos lèvres et sur RFI. En votre compagnie, Marcel Hibert, professeur de chimie, auteur d'Ocytocine, mon amour. Pourquoi le baiser est-il une vraie promesse? Est-il au fond le plus fort stimulus d'attachement? Celui qui produit de l'ocytocine chez les deux partenaires, c'est ça?
Oui, bien sûr, mais avec le baiser, on est déjà bien avancé en fait dans la relation.
C'est
la
vrai.
Relation, quand on en est là, on a déjà fait du chemin. Donc en fait, souvent, ça démarre avec un regard, donc avec de l'empathie qui se crée, avec de la sympathie qui se crée, une forme d'attirance qui est là, un sentiment déjà d'attirance. L'odeur peut contribuer aussi à l'intérêt que l'on porte à quelqu'un d'autre. Puis après, le toucher, hein, simplement le toucher peau à peau. Donc voilà, tout ça est une sorte de progression dans la relation. Et puis effectivement, on peut arriver à une bise sur la joue, et puis un jour, on peut passer au baiser. Et là, en fait, c'est la première fois où on pénètre le corps de l'autre. Donc ça devient extrêmement intime, en fait. On a vraiment une relation qui est en train de se sceller. On ouvre son corps à l'autre. Il y a cette interpénétration. Et effectivement... en fait, à toutes ces étapes, eh bien, on voit l'ocytocine monter. Que ce soit le regard, que ce soit une odeur agréable, que ce soit un toucher peau à peau, et que ce soit le baiser, qui est le summum, à chaque fois, on a des décharges d'ocytocine. C'est-à-dire les deux partenaires, les cerveaux des deux partenaires vont se mettre à décharger de l'ocytocine. Et cette ocytocine va justement créer ce lien. C'est-à-dire chacun de ces événements, le regard sympathique, le toucher sympathique, accepté, voulu... Et puis à la fin, le baiser, en fait, eh bien, ça va être pratiquement le summum du don de soi et de l'échange avec l'autre. Et l'ocytocine est là.
Voilà pourquoi les chimistes peuvent, et la chimie peut parler d'amour, et le chimiste que vous êtes peut parler d'amour, parce qu'au fond, nous sommes, à l'intérieur de nous, des sortes de petites usines chimiques. On ne se réduit pas à ça, on est beaucoup de choses. Mais vous remarquez que ce taux d'ocytocine, que l'ocytocine est présente à chaque étape de nos émois amoureux.
Alors, pas seul, hein. On parle, là, on se focalise sur l'ocytocine et on peut démontrer qu'elle a un rôle clé dans certains comportements pour l'induire ou pour le bloquer. Mais tout comportement est le fruit d'un nombre incalculable d'interactions extrêmement sophistiquées, extrêmement complexes, extrêmement intégrées. Donc, il faut faire attention de ne pas réduire un comportement. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'anxiété, ça peut être la douleur. Ça peut être... Chaque fois, c'est un cocktail d'émotions avec un cocktail d'hormones qui est derrière. Et tout ça sous le contrôle de nos gènes, de notre histoire, de notre environnement, etc. Donc, il ne faut absolument pas réduire. Mais j'aime bien être provocateur, notamment vis-à-vis de nos amis psy, en tout genre, en leur disant que nous sommes... finalement, des amas de molécules. C'est-à-dire chaque être humain est un amas de molécules. Alors, des fois, je les traite de tas de molécules, ils aiment moins. Mais je m'associe, je suis aussi un tas de molécules. De manière simplement objective, eh bien, nous sommes faits de molécules, hein, de molécules et de vide. Pour suivre Démocrite, hein, Démocrite disait « tout n'est fait que d'atomes et de vide ». Eh bien, le chimiste aujourd'hui dit « tout n'est fait que de molécules et de vide ». On absorbe des molécules, on sécrète et on excrète des molécules. Et entre-temps, nous sommes constitués de ces molécules qui interagissent avec elles de manière inexplicable. On n'arrivera jamais à expliquer la complexité de tout ça. Mais clairement, ces molécules interagissent et sont derrière chacun de nos comportements, chacune de nos émotions, chacun de nos faits et gestes.
Donc ces molécules, une petite différence entre molécules, hormones, quand on parle d'oxytocine, c'est une molécule ? Alors, mais quand c'est sécrété, c'est une hormone, c'est ça?
C'est ça. Donc, des molécules, nous en sommes plein. Il y a des molécules de glucose en nous, de sucre, de lipides, de cholestérol, etc. Tout ça... Qui nous constitue. Beaucoup de protéines, beaucoup, etc. Donc, de peptides et autres. Et donc, l'ocytocine est une des milliards de molécules dont nous sommes faits. Elle est fabriquée sur place, dans notre cerveau. Elle est sécrétée lorsqu'il y en a besoin, par notre cerveau. Donc, elle agit dans le cerveau et puis elle peut aussi, après, être distribuée par le sang et agir un peu partout dans le corps. Donc, ça, c'est le rôle d'une hormone. Alors, il y a des molécules qui sont statiques, qui sont à un endroit donné, qui font leur boulot et qui ne bougent pas. Et il y a des molécules qui sont sécrétées pour aller remplir leur mission à droite, à gauche, dans le corps, dans leurs organes cibles.
Alors, pourquoi et comment sécrétons-nous de l'ocytocine? Pourquoi et comment on s'attache à celui-là ou à celle-là, plutôt qu'à un ou une autre? Qu'est-ce qui nous fait tomber amoureux ou pas? Comment la chimie, hein, c'est notre question du jour, peut-elle aussi parler d'amour? Nouvelle question pour vous, soulevée par une de mes consoeurs ici à RFI, Magali Lagrange.
Il y a des personnes qui s'attirent naturellement, d'autres moins, voire pas du tout. Est-ce qu'on sait expliquer ça physiquement ou chimiquement peut-être?
Votre réponse, Marcel Ibiza.
Alors, il y a deux approches qui ne sont pas encore complètement validées scientifiquement. Mais il y a une première chose, c'est que au moment de la naissance, le cerveau du nouveau-né est extrêmement perméable. Et c'est une période extrêmement importante pour lui parce qu'il découvre le monde, il va recevoir toute une série de stimuli, etc. Mais à ce moment-là, il y a énormément d'oxytocine qui est fabriquée par la mère. C'est grâce à ça qu'il y a les contractions de l'utérus. C'est grâce à ça que le bébé est protégé de la douleur, qu'il est protégé du manque d'oxygène parfois. Et c'est aussi essentiel pour créer un lien affectif, un lien d'attachement très fort entre la mère et l'enfant. Voilà.
Pour supporter l'accouchement.
Supporter l'accouchement.
Des deux parties, des deux côtés.
Voilà.
Et pour faire naître l'attachement entre une mère et son bébé.
C'est ça. Et derrière, créer ce qu'on appelle l'affiliation. C'est-à-dire que le bébé va reconnaître son père et sa mère comme étant des personnes importantes pour lui. Elles vont le protéger, elles vont le nourrir, etc. Et plus tard, elles vont l'éduquer. Et pareil, les parents sont dans cette mission de s'occuper de leur nouveau-né. Et c'est l'oxytocine réellement. Alors, c'est parfaitement démontré chez l'animal. Il y a pas mal de publications chez l'être humain aussi. C'est l'oxytocine qui est nécessaire. Pas suffisante, mais nécessaire à l'établissement de cette affiliation, de ce lien, de cet attachement parent-enfant.
Alors, d'où d'ailleurs, mais on y viendra oui. plus tard, le fait que vous travaillez maintenant à des traitements possibles contre l'autisme, vos recherches sur l'oxytocine mènent évidemment à aborder autrement ces pathologies de l'attachement. Mais revenons-en donc au choix que l'on fait de son. Est-ce qu'on se plaît ou pas et est-ce que c'est lié à notre chimie interne ?
Ce qui semble aussi assez probable, c'est que l'oxytocine procure du plaisir. Alors, pas directement, mais indirectement, en activant certaines autres hormones. Mais donc, à ce moment, au moment de la naissance, où le bébé est très, très perméable à tout ça, eh bien, il a des décharges de plaisir. C'est-à-dire que le fait d'aller au sein de sa mère, de recevoir le lait de sa mère, c'est nécessairement associé à du plaisir. Sans ça, il ne le ferait pas. Il faut qu'il ait du plaisir à aller se nourrir. Et même la mère, quelque part, elle a, quand ça se passe bien, du plaisir à nourrir son petit. Eh bien, ça, c'est en grande partie lié à l'oxytocine qu'elle fabrique et qu'ils échangent. Donc, en fait, le petit, là, il est en train de mémoriser ces moments de plaisir inégalables parce que son cerveau est particulièrement sensible à ça.
Et ça donc, s'inscrit vraiment.
Voilà, ça s'inscrit et ça devient même une drogue pour lui. C'est-à-dire qu'il devient accro à ce plaisir, inconsciemment, évidemment. Et non seulement à la substance, il ne sait pas qu'il reçoit sa drogue, mais il sait que tout ce qui se passe à ce moment-là est bon. Et donc la voix de sa mère, le parfum de sa mère, la voix du père, on peut l'espérer, la douceur de la robe de chambre de sa mère, etc. Tout ça, il associe ça à des moments de plaisir intense. Et on peut penser qu'en fait, ça se grave dans sa mémoire, de manière consciente ou inconsciente, et que toute notre vie, lorsque l'on va recroiser un de ces stimuli, un parfum, une voix, une forme de visage, une douceur, ça va réveiller en nous le manque. Comme le fumeur, par exemple, c'est un des exemples que je donne, le fumeur qui apprécie, après un bon repas, son petit café et sa cigarette, s'il arrête de fumer, chaque fois qu'il va prendre un café, l'envie, ça va réveiller en lui l'envie de sa drogue, l'envie de sa nicotine, l'envie de sa cigarette.
Ce qui fait quand on tombe amoureux, entre guillemets, de quelqu'un, ou qu'en tout cas il nous plaît, et que ça nous fait du coup sécréter de l'ocytocine, ça on l'a bien compris, c'est parce que quelque part en nous, quelque chose reconnaît
ça réveille
en
un
l'autre
désir.
Un désir.
Ça réveille ça. Un désir.
Un plaisir passé, un désir.
Alors Platon nous dit ça, l'amour est désir, et le désir est manque. Voilà la définition de l'amour selon Platon. L'amour est désir et le désir est manque.
Et votre définition de l'amour en tant
que... Moi, ma définition de l'amour, c'est que c'est un petit moment de folie où on perd toute lucidité, etc. Et la raison en est certainement pour donner un peu de sens à sa vie. Sans ça, la vie serait camusienne, absurde. Voilà. Donc moi, je pense que sincèrement que c'est ça. Mais bon, ma définition importe peu. Donc pour revenir à ça, c'est vraiment le moteur de l'amour, selon Platon, en tout cas d'Eros, qui est une des composantes
de l'amour,
c'est vraiment le désir. Et donc, pour désirer quelque chose, et le désir est manque. C'est-à-dire, si on est accro à quelque chose, si on est dépendant de quelque chose, si on est drogué à quelque chose, il y a ce manque qui est là. Et donc, on va le désirer. Donc, en fait, effectivement, si croiser un parfum ou autre réveille en nous un désir, on va vouloir satisfaire ce désir. Donc, on va aller vers l'autre pour essayer de reproduire le plaisir que l'on avait senti dans ses premiers instants. Une des composantes.
C'est une des composantes, donc c'est aussi une des composantes de l'amour. Il y en a d'autres aussi, puisqu'il y a aussi l'amour filial, évidemment, l'amour amical. Enfin, ça concerne vraiment, l'oxytocine est présente, pas seulement dans le plaisir sexuel amoureux, mais finalement dans tous nos plaisirs d'attachement, dans tous nos liens. Et on sait bien qu'on est des animaux très sociaux, qui avons besoin de liens pour vivre.
Faute de d'avoir de fil moléculaire à tirer au début de ce projet de recherche, donc j'avais vraiment pas quoi travailler. Donc en fait, j'ai commencé à regarder autour de moi ce que pensaient les philosophes, les poètes, les écrivains de cette notion d'amour. Et j'ai pas relu toute la philosophie, mais en m'appuyant beaucoup sur André Comte-Sponville, par exemple, qui est un très bon pédagogue. Eh bien déjà, les anciens avaient distingué trois formes d'amour, qui étaient Eros, Philia et Agapé. Et pour faire simple...
Eros, oui, pour faire simple.
Eros, c'est l'amour romantique, c'est le coup de foudre, voilà. Philia, c'est l'amour maternel, c'est l'amitié. C'est se réjouir de ce qui existe, nous dit Comte-Sponville. Et Agapé, c'est une forme d'amour universel de son prochain, quelque chose qui reste un petit peu flou.
Mais les trois formes, donc Eros, Agapé et Philia... Et Philia nous font sécréter de l'ocytocine.
Oui, alors c'était ça un petit peu. Vous voyez, quand on lance un projet de recherche, il faut bien qu'on précise la question. Et donc, au départ, si on se dit qu'est-ce que c'est que l'amour, eh bien, il fallait préciser ce que c'était que l'amour. Et en fait, en regardant ce qu'était Eros, Philia et Agapé, c'était évidemment des comportements très différents. Lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un, ou lorsqu'on aime son enfant, ou lorsqu'on aime RFI, par exemple, eh bien, c'est pas les mêmes manifestations du corps ni de l'esprit. Donc, on s'attendait vraiment à trois questions différentes, des mécanismes différents. Et la grande surprise, c'est qu'après 20 ans de publication de recherche de mes collègues, hein, notre contribution est très, très limitée, eh bien, c'est qu'on se rend compte que la nature a utilisé l'ocytocine derrière ces trois formes d'amour. Il y a de l'ocytocine derrière Eros, il y a de l'ocytocine derrière Philia, et il y en a aussi derrière Agapé de manière incroyable. C'est-à-dire que la générosité, l'altruisme, c'est aussi l'ocytocine.
C'est aussi l'ocytocine autour de la question. Qu'est-ce que l'ocytocine et qu'est-ce que la chimie, les chimistes comme vous, ont à nous dire sur l'amour? Vous venez de nous rappeler à quel point love is all you need, en paraphrasant dans votre ouvrage aussi ce joli morceau des Beatles qu'on vous passe entre les deux oreilles et qui, chimiquement parlant, n'a rien perdu de son actualité.
Sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Love avec les Beatles sur RFI, convoqué par notre invité, le professeur de chimie Marcel Hibert, dans son essai Ocytocine, mon amour, aux éditions Humaines Sciences. Ouvrage génial dont nous avons quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Autour de la question pourquoi et comment la chimie peut aussi parler d'amour, et nous expliquer un peu tout de même comment ça marche, comment on marche, et pourquoi tout ça nous est indispensable pour vivre, évidemment, et tout d'abord pour grandir.
Ça me tente ! Ok, maman. Ok.
Et oui, encore, on en veut encore et on comprend pourquoi. Fabrice Hibert, la petite Gisèle, veut encore que sa maman la papouille et la chatouille. C'est grâce à l'oxytocine. L'oxytocine qui nous permet de grandir, qui est nous permet de nous attacher à nos parents, on l'a dit. Mais tout de suite, une nouvelle question pour vous. Est-ce que l'oxytocine élargit encore le cercle pour vous qui parlez d'amour? Professeur Marcel Hibert, question soulevée par ma consoeur Cécile Estienne du mensuel Cerveau et Psycho.
On parle beaucoup du rôle de l'ocytocine dans l'attachement mère-enfant. Le fait de s'occuper d'un bébé provoque sécrétion d'ocytocine, évidemment chez la mère. Chez le père, on l'a étudié aussi, je crois. Voilà. Est-ce qu'on l'a aussi étudié chez la famille élargie, les grands-parents, les frères et sœurs? Est-ce que cette molécule joue aussi un rôle dans l'attachement vers le prochain?
Votre Alors, à réponse. Ma connaissance, non. Je n'ai aucune.
Enfin, en tout cas, on l'a pas étudié.
Je n'ai pas trouvé de référence. Donc, pour ce livre, j'ai quand même épluché pas mal la littérature scientifique. Et effectivement, au-delà des pères et mères, il n'y a pas eu beaucoup d'expérience. Alors, chez les mères, beaucoup de choses, l'oxytocine a été dosée, mais on peut pas administrer l'oxytocine aux mères parce que c'est pas éthique. Par contre, ce qui est fait, c'est au père. On peut administrer l'oxytocine par voie intranasale au père. Et on voit que ça influe
considérablement. Un petit spray nasal, d'ocytocine.
Et on voit que ça augmente son comportement paternel. Et que ça augmente aussi la réponse de l'enfant. On voit que ça fait augmenter d'ailleurs en réponse le taux d'oxytocine chez l'enfant. Donc il y a beaucoup plus d'interactions entre eux. Et c'est comme ça que ça vient renforcer encore la partie éducation en fait, et la partie affiliation.
L'un suscite l'autre, hein, autour de la question qu'est-ce que la chimie a à nous dire sur l'amour, sur les amours, les formes d'amour, on l'a dit, Eros, Agapé, donc amour plus universel, et puis Philia, l'amitié, l'amour avec les proches, etc. C'est, c'est à double sens, et l'un nourrit l'autre, c'est ça ?
L'un nourrit l'autre. Ouais, un résultat qui a frappé beaucoup de monde, pour parler des pères, c'est que, justement, durant la grossesse... les taux d'oxytocine augmentent chez la mère par étapes. À partir de 5 mois et demi, 6 mois, il y a déjà une petite augmentation. Puis surtout, au moment de l'accouchement, il y a une dose d'oxytocine qui est colossale. Et puis, les taux d'oxytocine restent très hauts chez la mère tout le temps qu'elle va allaiter son enfant. Donc, il y a une sorte de courbe comme ça. On voit l'oxytocine qui monte brutalement et qui reste tout le temps l'allaitement. Et on peut comprendre que c'est le fruit de modifications hormonales chez la mère qui est enceinte et au cours de sa grossesse. Ce qui est assez sidérant, c'est que chez le père, l'oxytocine suit la même courbe. Or, le père, lui, n'est pas enceint. Donc, ce n'est pas les chamboulements hormonaux dus à la grossesse qui vont faire ça chez le père, mais c'est par empathie. Donc, l'empathie entre la mère et le père font que par empathie, les courbes vont s'aligner. Donc, le père va se mettre à sécréter l'oxytocine pour, je pense aussi, mieux s'occuper de la femme enceinte, et puis aussi pour développer un comportement paternel après la naissance.
Vous parlez d'empathie, Marcel Hibert, et dans cet ouvrage, Ocytocine, mon amour. D'ailleurs, Ocytocine, mon amour, c'est un titre qui fait évidemment référence à Marguerite Duras. Hiroshima, ouais, mon amour. Sûr. Pourquoi donc cette Ocytocine, mon amour. Vous avez une jolie formule à ce sujet.
Bah, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots facile. Bon, la bombe atomique est une arme de destruction massive. Et là, une des observations, finalement, quand on regarde toutes les fonctions de l'oxytocine, on peut parler d'une arme de construction massive. Je pense à l'aide à construire, finalement, l'individu, à construire une société, à construire un groupe social, et par l'amour. Donc, voilà. Donc, Hiroshima, mon amour, aussi de mon amour, le clin d'œil était là.
Le livre est en tout cas à gagner. Nous en avons plusieurs exemplaires à vous offrir, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez, par mail ou sur notre page Facebook. D'autant que vous nous entraînez vraiment très loin, enfin vos recherches hein, sur l'amour, l'ocytocine, qu'est-ce que c'est que l'amour, comment est-ce que ça s'exprime dans notre corps. Vos recherches vous entraînent très loin, on a parlé d'empathie, on a parlé d'armes de construction massive. Vous vous êtes intéressé aux pathologies de l'attachement, puisque l'ocytocine est l'hormone ou la molécule de l'attachement. Il y a des pathologies de l'attachement, notamment dans tout ce qu'on appelle le spectre autistique chez les autistes, qui souffrent d'empathie, du mal justement d'interaction avec les autres, d'émotions avec les autres. Alors, vous avez parlé de questions éthiques, c'est très compliqué, on ne peut pas comme ça donner de l'oxytocine n'importe quand et n'importe comment, mais expliquez-nous vos travaux et comment ça pourrait être une des pistes de traitement, d'amélioration pour les jeunes autistes notamment.
Oui, donc effectivement, ça bien au-delà de l'autisme, à chaque fois qu'il y a des problèmes d'interaction sociale, on se rend compte que l'oxytocine est très faible. Donc dans l'anorexie par exemple, dans certaines formes de boulimie, dans certaines, dans beaucoup d'autres pathologies, la schizophrénie, certains comportements violents, les troubles dits borderline. Chaque fois, on voit que l'oxytocine est là, vient altérer l'interaction sociale, le comportement social. Et là où c'est le plus flagrant, effectivement, c'est sur l'autisme. Alors, définir l'autisme est difficile, puisqu'en fait, on parle de spectre autistique, il y a un panel extrêmement large de comportements associés à ce trouble. Ils ont quand même pratiquement tous une chose en commun, c'est le défaut à la naissance de possibilité de décrypter des émotions sur des visages ou dans des regards. Ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que tout nouveau-né, quelle que soit son ethnie, il peut être asiatique, caucasien, africain, eh bien, tous les enfants naissent avec la possibilité de reconnaître sur un visage, simplement sur un regard, ou encore mieux sur un visage, de reconnaître si la personne en face de lui est empathique et sympathique.
Bienveillante ou malveillante.
Et donc,
question de survie, en fait,
voilà.
Un peu.
Hein. Et donc, en fait, c'est la première boîte à outils dont il dispose pour faire ses premiers essais dans la vie, voir lorsqu'il va faire des tentatives de ceci ou de cela, voir si c'est bien ou si c'est mal, s'il est récompensé.
Si ça réagit ou pas.
Voilà. Donc, a priori, si les parents, si les éducateurs sont là, ils vont renforcer tout ce qui sera bon pour lui et ils vont, entre guillemets, le punir. Avec toutes les guillemets qu'il faut, si c'est quelque chose qui lui est nuisible. Et c'est comme ça que l'enfant se construit. Et malheureusement, les autistes naissent sans ça. Donc, par exemple, les émoticônes, on arrive tous sur un petit émoticône à avoir le sourire ou au contraire, les sourcils froncés. Voilà. Pour chacun d'entre nous, ça parle. Et même pour des enfants, ça leur parle. Pas les autistes. Et c'est vraiment leur point commun au départ. Alors ça, c'est le point de départ au départ. Mais après, effectivement, si l'éducation, si les parents, si tout le monde, les éducateurs autour d'eux arrivent à compenser ça par l'éducation, ils arrivent à peu près à s'en sortir. Mais si on les laisse livrer eux-mêmes, eh bien, ils n'ont pas les codes pour s'intégrer dans la vie sociale.
Et un petit coup d'oxytocine peut changer la donne.
Alors, chez le rat et la souris, c'était extraordinaire. On leur fait sniffer un petit coup d'oxytocine et hop, ils retrouvent de l'interaction sociale. Et ou à l'inverse, chez des animaux normaux, si on bloque l'oxytocine, eh bien, ils se coupent de la société. Et chez les êtres humains, donc ça a été dosé, donc on trouve effectivement chez les autistes une multitude d'indices qui montrent que l'oxytocine joue un rôle important dans leur trouble neurodéveloppemental. Et il se trouvait qu'il y avait déjà de l'oxytocine qui était disponible sous forme de spray nasal. C'était utilisé dans beaucoup de pays pour stimuler la lactation. Les femmes qui avaient du mal à éjecter leur lait, c'était utilisé pour ça. Donc bien sûr, des sociologues, des psychiatres, des neuropsychiatres se sont rués sur ce médicament. C'est un médicament, j'insiste. Et ils ont pu faire des expériences. Et effectivement, en faisant sniffer... Parce que c'est la seule manière d'en envoyer un petit peu dans le cerveau. Alors, pas directement, ça passe par différentes couches. Mais c'est la seule manière d'envoyer un petit peu d'oxytocine dans le cerveau. Et bien, en donnant ça à des autistes, pour la première fois de leur vie, ils se sont mis à regarder dans les yeux, ce qu'un autiste ne fait pas, il a peur du regard. Ils se sont mis aussi à pouvoir décrypter des émotions sur des visages, etc. Donc, on a comme ça pu prouver que l'oxytocine pouvait les aider à surmonter en toute petite partie leur handicap d'interaction sociale.
C'est extraordinaire et en même temps, vous le soulignez bien, vous n'évitez aucune question qui fâche et vous soulignez bien le côté éthique que tout cela pose. Attention aux charlatans, attention, c'est très très compliqué finalement de jouer avec ces hormones-là.
Oui, donc il y a énormément de publications aujourd'hui où les scientifiques ont été tester les effets de l'oxytocine sur une foule de choses, toutes les choses dont on a parlé, l'empathie, l'altruisme, le comportement social, etc., etc. Donc, vous verrez beaucoup de publications où les gens ont utilisé cette oxytocine à titre expérimental dans un cadre extrêmement bien défini. Malheureusement, on peut acheter de l'oxytocine sur Internet. Pas en France, théoriquement. En France, c'est difficile, mais c'est assez facile à contourner.
Vous le déconseilleriez ?
Et il ne faut absolument pas le faire.
Bien.
Pour plusieurs raisons, parce que les produits que vous allez recevoir peuvent être mélangés à d'autres hormones. On n'en connaît pas la pureté.
C'est ça.
En plus, quelle dose administrer, pendant combien de temps, etc. Donc tout ça n'est absolument pas maîtrisé. Et en plus, la probabilité que ça rentre dans le cerveau et que ça fasse l'effet attendu est très très faible. Donc surtout, ne le faites pas. Il y a plein d'autres manières dont on parlera probablement avant la fin de l'émission.
Et ben voilà, dont on va parler comment sécréter, parce qu'il y a un chapitre là-dessus dans votre ouvrage, notre oxytocine bio, enfin notre propre oxytocine. Parce qu'évidemment, autour de la question qu'est-ce que la chimie et comment la chimie peut-elle nous parler d'amour, on se demande évidemment comment la chimie, les chimistes comme vous, peuvent nous aider alors à le déclencher, mais surtout à l'entretenir, parce qu'il faut que ça dure. L'amour dans la vie, c'est bien compliqué. Je vous propose, Marcel Hibert, d'écouter ce qu'en dit un autre biologiste de nos passions, que vous connaissez évidemment, Jean-Didier Vincent, neurobiologiste psychiatre, dont vous avez largement prolongé les travaux. On l'écoute.
on ne tombe pas amoureux ou on n'est pas attiré, laissons le côté amour de côté, et puis parlons d'attraction, c'est-à-dire de désir. On ne désire pas n'importe qui, n'importe comment. C'est vrai qu'il y a déjà dans les représentations qui se produisent dans votre cerveau au cours de votre enfance, des traits qui vont s'inscrire et qui dessinent déjà en filigrane la personne dont vous allez tomber amoureux, parce que c'était lui et parce que c'était vous.
On l'a en mémoire, en quelque sorte.
Vous l'avez inscrit dans votre cerveau. Appelez ça mémoire si vous voulez, mais la mémoire s'applique à un événement. Là, c'est quelque chose qui va être prédictif et qui va dessiner comme un programme, comme un schéma d'action, c'est celui ou celle auquel vous allez vous attacher avec le phénomène d'attachement et avec qui vous aurez naturellement envie de conclure en faisant l'amour. Parce que faire l'amour, ça fait libérer des hormones, l'ocytocine notamment, qui crée l'attachement, c'est-à-dire qui entretient le lien. Autrement dit, faire l'amour, c'est quand même quelque chose d'assez important pour être amoureux. Il faut, je crois, moi je suis un...
On est attiré, on fait l'amour, et on fait l'amour, ça entretient, voilà, et ça développe l'amour.
Bien
c'est
sûr,
ça.
C'est tout ça, c'est quelque chose qui doit être entretenu comme un feu, vous savez, il faut rajouter du bois en permanence. Mais s'il n'y a pas de flamme au départ, ça ne marche pas.
Vous êtes d'accord avec le neurobiologiste Jean-Didier Vincent, Marcel Hibert, il faut l'amour, ça s'entretient comme un feu. Il faut la flamme au départ, on a bien compris, mais après, il faut l'entretenir,
absolument.
Il faut faire l'amour.
On ne peut que être d'accord avec Jean-Didier, bien sûr, oui, il a tout à fait raison. Alors, il faut peut-être, à un moment donné, il faut peut-être tuer quelques illusions. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand on parle d'amour, on en a déjà parlé tout à l'heure, il y a peut-être différentes phases. Il y a la phase Eros, qui est une phase tout à fait intéressante où on perd un peu de lucidité. C'est-à-dire que l'hormone, cette oxytocine aussi, nous fait perdre un peu de lucidité. C'est-à-dire que ça gomme les aspérités négatives de l'autre. On a tendance à ne regarder que...
Cocktail euphorisant.
Voilà, côté c'est euphorisant, ça, côté même aveuglant. On dit l'amour est aveugle. Hein, ouais. Donc voilà, et finalement, la science vient mettre quelques résultats scientifiques derrière ça. C'est vrai que ça fait perdre toute lucidité par rapport aux aspects négatifs de l'autre, celui vers lequel on est attiré malgré soi. Et ça, malheureusement, cet effet-là, il ne dure pas infiniment. Donc ça, c'est vraiment la phase Eros euphorique d'amour aveugle. Et quand même, ça réside difficilement au-delà de quelques semaines, quelques mois, au mieux quelques années. Donc c'est dur de mettre des chiffres, mais généralement, ça s'étiole un petit peu. Pourquoi ? Parce que Comte-Sponville est intéressant aussi là-dessus. Si on revient à la définition...
Le philosophe André Comte-Sponville.
Oui, la définition de Platon est intéressante. L'amour est désir et le désir est manque. Donc en fait, on ne désire que ce que l'on n'a pas. Si à un moment donné, on a accès à l'être aimé
et
qu'on commence à vivre avec lui, ben, du coup, il ne nous manque plus. S'il ne nous manque plus, il n'y a plus de raison de le désirer. Donc, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. S'il n'y a plus de désir, ben, il n'y a plus d'amour au sens éros, vraiment cette force qui nous pousse à obtenir ce que l'on n'a pas. Donc, ce qui se passe, ce qu'il faut dans l'idéal... Bon, je ne vais pas dire ce qu'il faut, chacun fait ce qu'il veut. Mais en gros, ce qui se passe généralement, c'est qu'on essaie de transformer Eros en philia. C'est-à-dire,
dans cette autre forme d'amour,
voilà.
Amitié
c'est,
amoureuse.
Oui, une amitié amoureuse, quelque chose de très fort qui va certainement au-delà de l'amitié. Et il faut entretenir ça. Et pour l'entretenir, ben, Jean-Didier Vincent a raison, effectivement. L'oxytocine est en grande partie là pour ça. Donc tout ce qui peut entretenir cet amour... Eh bien, il faut y aller, quoi. Et donc, les recettes sont connues, elles sont vieilles comme le monde. En gros, passer du temps ensemble, se caresser, s'embrasser, faire l'amour, autant de manières de faire monter l'oxytocine en parallèle chez les deux partenaires, quels qu'ils soient, et autant de manières, donc, de faire durer philia.
Autour de la question comment un chimiste comme vous arrive très bien à nous parler d'amour, je vous propose, cher Marcel Hibert, d'écouter l'amour en version Bambara, chanté par de formidables amoureux de Tourtereau, Amadou et Mariam sur RFI.
Amour net in ambila ko be fo Balima o ye mon de fama ma chérie net in ambila ko be fo
Mon amour, Amadou et Mariam sur RFI, qui en connaissent un brin en matière d'alchimie amoureuse et d'attachement longue durée. Autour de la question, comment un chimiste comme vous, Marcel Hibert, peut-il nous parler d'amour? Je rappelle le titre de votre essai, génial, drôle et très instructif. Aussi, Mon amour, dont nous avons, je vous le rappelle, un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, et dans lequel vous saurez tout sur justement l'amour, l'ocytocine, et dans lequel vous n'évitez aucun sujet qui fâche. Vous terminez même, Marcel Hibert, par un dernier chapitre intitulé « Au diable, la chimie ». À ce sujet, nouvel éclairage en forme de question soulevé par le professeur de neurologie Philippe Damier, qui mène lui ses recherches sur la prise de décision. On l'écoute.
C'est vrai qu'on commence à connaître pas mal de produits chimiques qui, au niveau cérébral, sont impliqués dans les processus de séduction, d'attractivité vers l'autre, d'attachement, avec un produit qui, je pense maintenant, commence à être connu du grand public, qui est l'ocytocine, qui permet de faire que la maman va s'attacher au bébé.
C'est une hormone.
Le papa aussi, d'ailleurs. Donc c'est une hormone, c'est un neurotransmetteur. Donc voilà, il y a des éléments, mais quelque part, en tant qu'humain, on garde une part de libre arbitre. Alors, ça pourrait peut-être être intéressant de connaître l'éclairage là-dessus. Quelle est la différence de l'humain par rapport à ce flot d'hormones et de neurotransmetteurs qui nous dirige? Quelle marge de liberté on garde?
Quelle marge de liberté on garde, Marcel Hibert, en amour? On a bien compris au début, période érose, ça doit être compliqué de garder une marge de liberté, quoique.
Ah, c'est une marge de lucidité, surtout qu'il doit regarder.
C'est ça.
Liberté, oui, effectivement, on est prisonnier finalement de son aveuglement. Donc, bon. Oui, la question est importante. D'ailleurs, on se la pose nous-mêmes, mais je ne suis pas sûr d'avoir une réponse, en tout cas pas une réponse philosophique. Bon, mais il y a quelque chose qui est très, très rassurant. C'est-à-dire qu'il ne faudrait surtout pas trop simplifier. C'est-à-dire que tous ces comportements que l'on vient de voir ne sont pas le résultat de l'action d'une hormone. Ce n'est certainement pas le cas. C'est-à-dire que tout ça est extraordinairement complexe et c'est rassurant d'ailleurs. C'est tellement complexe qu'on est sûr qu'on n'arrivera jamais à comprendre la totalité de ce qui se passe derrière une réaction, derrière un sentiment, derrière une émotion. Et on n'arrivera certainement jamais à le reproduire en laboratoire. Donc en fait, juste pour revenir au libre arbitre, malheureusement, il y a des études qui montrent chez nos personnes empathiques, amoureuses, etc., qu'on arrive à retrouver une trace d'une prédisposition génétique. C'est-à-dire qu'il semble que dans nos gènes, certains d'entre nous ont des gènes qui les prédisposent à être stables en relation en couple, à avoir une bonne interaction sociale, d'autres non. Et ces gènes commencent à être identifiés. Donc déjà, il y a une influence de nos gènes. Mais nous ne sommes pas totalement sous le contrôle de nos gènes, fort heureusement. C'est-à-dire que derrière les gènes, c'est ce que l'on a à la naissance, mais derrière ça va passer plusieurs choses importantes. Notre environnement, chez qui on va naître, dans quel milieu, dans quelle société. Puis après, le poids de l'éducation et le poids de la culture. Et plus l'environnement, la culture, l'éducation seront fortes, seront présentes, moins le poids des gènes va peser. Donc en fait, nous sommes tous des molécules, mais nous sommes des molécules en interaction extraordinairement complexe. Et nos comportements, finalement, sont le résultat de nos gènes, de notre histoire, de notre environnement. Et c'est tellement complexe qu'à un moment donné, lorsqu'on est amené à prendre une décision, bah, tout ça est mobilisé. Et c'est mobilisé d'une manière absolument incompréhensible, pour indécryptable pour un chimique. Donc peut-être que la part de libre arbitre est là, c'est dans la complexité.
Et ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de potion magique, et on parlait tout à l'heure de spray d'ocytocine, il n'y a pas de potion magique, ce que nous demandait un de nos auditeurs à Kinshasa, il n'y a pas de potion magique pour augmenter la compassion de quelqu'un qui n'en aurait pas du tout. Ce sont des pistes, ce sont des éléments. Ce sur quoi vous menez vos recherches, c'est, vous l'avez dit, c'est une combinaison de facteurs qui peut améliorer.
Oui, de toute façon, tout est... J'aime bien donner un exemple qui est l'anxiété. L'anxiété, ça peut être extrêmement compliqué. Pourquoi est-ce qu'on est anxieux? Est-ce que parce qu'on a des gènes qui nous poussent à être anxieux? Ou est-ce qu'on a survécu à un accident de voiture? Est-ce qu'on a survécu à un attentat? Donc, d'un seul coup, on devient anxieux. Voilà. Donc, l'anxiété, c'est très, très complexe. Vous voyez, ça mobilise votre histoire, tout ça. Mais au bout de 2, 3, 4, 5 verres de vodka, votre anxiété disparaît. On ne va pas dire pour autant qu'on ne va pas réduire l'anxiété à l'éthanol et à la vodka. Vous voyez? Donc, pareil, l'amour, tout ça, c'est extrêmement complexe. Mais ce que l'on voit, malgré tout, c'est que l'oxytocine, bien, ça vient moduler ses comportements. Alors, il y a des expériences, il y a beaucoup, beaucoup d'expériences chez l'homme qui montrent que l'administration d'oxytocine, pour un temps très bref, peut avoir un impact plus ou moins marginal sur le comportement. Donc, il y a quand même le risque. À tel point même que l'armée s'y intéresse. On sait que l'armée américaine s'y est intéressée. Est-ce qu'on peut, par exemple, le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire est-ce qu'on peut induire de la confiance chez votre ennemi, chez l'espion? Et est-ce qu'il va se mettre à vous raconter tous ses secrets parce qu'il vous fait confiance et non pas parce qu'il délire, comme avec le sérum de vérité aujourd'hui? Donc, vous voyez, la vérité est quelque part entre les deux. C'est-à-dire qu'un médicament a de l'impact sur votre vie. Le LSD a de l'impact sur votre vie. Le café a de l'impact sur votre comportement. La vodka a de l'impact sur votre comportement. Ben, l'oxytocine peut avoir un petit impact. Fort heureusement, elle pénètre très très mal le cerveau. Et fort heureusement, son effet est très bref. Et dernière chose, c'est que ce qui est intéressant avec l'oxytocine, c'est qu'il n'y a pas d'effet apparemment indésirable dû à des surdosages. Alors, je ne devrais pas dire ça, parce que ça va inciter les gens à en prendre des doses massives.
Mais ça ne fait rien, ou c'est pas absolument...
A priori, ça gomme les saillants. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est trop ou pas assez, ça a tendance à le ramener à la normale. À une exception près, qui est le sentiment d'appartenance à un groupe. Donc, si le groupe est attaqué... L'oxytocine va multiplier votre agressivité. C'est le seul cas où elle induit de l'agressivité. Donc, ce qu'on peut imaginer, par exemple, chez les hooligans, les supporters du Paris Saint-Germain et de l'OM, ils sont très pacifiques entre eux, mais dès que quelqu'un du camp adverse vient les menacer, ils se mettent à les attaquer. Donc, l'étude n'a pas été faite. Elle a été faite par des Allemands, d'ailleurs, sur des supporters de football, des hommes politiques. Mais voilà, l'oxytocine est là aussi.
Merci infiniment, Marcel Hibert, d'avoir parlé d'amour et même jusqu'au football. Moi, j'ai envie de terminer avec votre dernière phrase. Donc, vous nous dites oubliez la chimie, oubliez le spray nasal et faites monter l'ocytocine qui est en vous, celle de vos enfants, de vos amis, de vos amours, de vos frères et sœurs humains, de votre chien, un sourire, de l'empathie, les mots, les regards, la tendresse, des câlins, aimer, rire, boire et danser. Quoi d'autre? Merci pour cette profession de foi. Merci infiniment de nous avoir fait monter notre taux d'oxytocine. Marcel Hibert, je rappelle le titre de cet essai dont nous avons encore, chers amis auditeurs et auditrices, quelques exemplaires à vous offrir. Oxytocine, mon amour, aux éditions Humaine Science, un ouvrage qui fait beaucoup de bien par où ça passe. Et vous revenez quand vous voulez partager la suite de vos recherches sur l'amour, Marcel Hibert.
Sur l'autisme.
Et sur l'autisme, bien sûr. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à nous podcaster. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, entre Paris et Port-au-Prince. Autour de la question, quelle faille à l'origine du dernier séisme en Haïti? Nous serons en direct et en duplex sur le terrain avec des sismologues haïtiens et français. Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur RFI.
Priorité santé.